Des millions de Maliens descendus ces dernières heures dans la rue de Bamako et dans d'autres villes du pays pour dénoncer l'embargo total décrété par les forces d'occupation franco-anglo-saxonnes devraient bien pousser les néocolonialistes à revoir leur copie. Car le déclic de cette résistance africaine qui vient d'être donnée par les Maliens tend à se généraliser et à couvrir tout le Sahel et qui se le disent bien. Il ne va rester au stade des slogans anti-France, anti-Occident scandés à travers tout le Mali, voire le Burkina et le Niger. Ces millions de Maliens qui en ont assez et que des blancs occidentaux décident à leur place, qu'ils fassent remonter les Africains les uns contre les autres, dans le strict objectif de diviser pour mieux régner et piller les richesses de l'Afrique, n'ont réellement pas l'air de vouloir lâcher prise. D'ores et déjà, la base de Mopti, qu'occupent les criminels de Barkhane, accueille sur l'ordre de l'État malien des forces alliées de Wagner. Là, ce n'est pas une occupation, mais bel et bien un partenariat, d'où ce premier attentat anti-russe à Bamako. L'un des spécialistes militaires russes, qui était auparavant arrivé au Mali pour des consultations, a été tué par des inconnus dans la région de Mopti, située dans la partie centrale de la République africaine, lit-on sur Aviapro. Les Wagner agiront non pas à leur tête, mais sous le commandement malien. C'est si différent de ces militaires français ou otaniens qui, d'opération False Flag en opération False Flag, se servaient des fils du Mali comme de chair à canon et qu'en plus, une fois les attaques terroristes qu'elles avaient elles-mêmes planifiées, financées et pilotées, effectuées, quitte à faire couler du sang malien, ils se mettaient à en accuser les Maliens eux-mêmes. C'est exactement cette stratégie qui a fait que le dirigeant de la CDAO ont voté contre le Mali, un scandale que le Sénégalais Macky Sall, connu pour sa résistance aux pressions occidentales, devra au plus vite effacer en revenant sur cet embargo. Pour le reste, ces millions de Maliens qui sont descendus dans les rues à l'appel de leurs dirigeants, des dirigeants dont ils n'approuvent pas toutes les politiques, mais qui estiment que ce n'est aux Américains, aux Français, aux Chinois, aux Russes ou à n'importe quel autre pays du monde de décider à leur place, ont ouvert un chapitre tout nouveau dans l'histoire moderne de l'Afrique. Une foule monstre dans les rues de Bamako et des rassemblements également dans les autres grandes villes du pays ce vendredi 14 janvier 2022 au Mali. Les Maliens ont répondu ainsi massivement à l'appel des autorités de transition, lit-on en effet dans les médias. Ce sont des gens qui sont prêts à crever de la faim mais pas à vivre dans un pays occupé par les soldats étrangers qui les tuent, qui leur extirpent leurs richesses, qui leur dictent la marche à suivre. Des États qui, chez eux, ne sont même pas foutus de résoudre le moindre problème. Ces manifs perdureront et la France, qui se sent complètement doublée par les Maliens, vient de se faire expulser du Mali. D'ores et déjà, le gouvernement de transition parle d'une révision des accords militaires avec la France, qui n'ont rien donné si ce n'est la mise sous tutelle de l'armée malienne, son affaiblissement tout en laissant à l'ennemi d'étendre sa présence militaire et avoir la main libre à mieux planter son couteau de terrorisme dans le dos des Maliens. C'est un jour historique que ce vendredi 14 janvier 2022, presque une journée de l'indépendance. La France ayant soutenu les sanctions de la CDAO, le Mali a annulé les accords militaires relatifs à la force Barkhane, lit-on sur Voltairenet. La défense de la souveraineté nationale sont deux valeurs qui sont très chères aux Maliens, et pour préserver ces valeurs, la résistance malienne ne fait que commencer. Le Sénégal et la Guinée se neutralisent lors de la deuxième journée de la CAN Camp. C'est apparemment un titre sportif anodin que l'AFP et ses tentacules en Afrique reprennent à grande échelle. Mais derrière ce titre innocent, c'est toute une philosophie impérialiste et colonialiste qui opère. Pour la France et les Yankees ou autres Otaniens, les Africains devront se neutraliser aussi bien militairement qu'économiquement et diplomatique et financièrement. Les Africains devront s'entretuer à l'intérieur d'un pays ou entre les voisins. Les frontières devraient être fermées, le commerce réduit à zéro. Bref, les Africains devront toujours haïr les uns les autres. C'est cette philosophie qui a fait voter la CDAO contre le Mali alors que le président ghanéen, tout comme les autres présidents, savent pertinemment que le combat que mène le peuple malien est aussi leur combat, celui de la souveraineté. Il y a 3 ans, le frère du nouveau président de l'UA, Macky Sall, faisait l'objet d'un complot médiatique fabriqué de toutes pièces par la BBC qui, à l'aide des ONG, a réussi en diffusant un faux documentaire, à agiter la rue sénégalaise et pousser le président à limoger son frère. Dès lors, il a compris que c'est vers l'Est qu'il faudrait se tourner pour trouver des partenaires fiables. Sall a-t-il oublié ce coup? Plus d'un analyste dirait non et on attend qu'il mette fin à cette honte qui est un embargo approuvé par les Africains contre les Africains. Lisons l'une des analyses à ce sujet. En attendant, les embouteillages gonflent sur les deux sens du corridor Dakar-Bamako, où passent chaque jour plusieurs centaines de camions maliens et sénégalais. Un chaos qui devrait impacter une économie du Sénégal très largement imbriquée à celle du Mali dans de nombreux secteurs d'activité. Macky Sall, signataire de mesures de sanctions contre son voisin, est fortement critiqué dans son pays. Peut-il faire quelque chose après cet aveuglement inattendu de sa part? Avec la présidence en exercice de l'Union africaine, qui va assurer à partir du 1er février 2022, le chef d'État sénégalais, qui passe pour un médiateur facilitateur, devrait s'attacher à trouver les moyens de lever les difficultés entravant le dialogue entre la CEDEAO et le Mali. L'idée est de sortir de la lutte entre les principes de gouvernance de la charte d'Abuja, qui a créé la CEDEAO d'une part, et d'autre part, la réalité d'un pays désormais asphyxié par ses propres voisins, avec la volonté manifestement instrumentalisée de porter un coup fatal, à la fin de non recevoir des autorités maliennes, à l'encontre des exigences de la France, analyse Emmanuel Dupuis. Souverainiste et intelligent qu'il est, et vu ses expériences amères en termes de rapprochement avec l'Occident, Macky Sall devra très vite comprendre que le chemin tracé par la CEDEAO contre le Mali ne fera qu'emmener tout le continent africain vers le chaos. En plus de 10 ans d'existence, l'Africom des Yankees qui siège à Dakar n'a jamais pu organiser de grands exercices au Sénégal, ni menacer qui que ce soit. Le Sénégal s'est même transformé en un lieu d'aide et de contribution au contournement des sanctions US contre les États indépendants. Il y en a donc qui diraient que le Sénégal sait comment se jouer des Blancs. Terrorisme, putsch, pression économique, etc. Le clan occidental a tenté durant toutes ces années de faire plier les pays au Sahel à travers ses stratégies, mais ont-ils réellement réussi? Réussiront-ils à semer le chaos au Burkina cette fois? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Donc, vous devez savoir que l'événement du Mali, c'est-à-dire la prise de pouvoir par des colonels pro-russes, les corps militaires avec la Russie et l'Algérie, et le position de la CEDEAO qui est aux mains des Occidentaux, ça a incité une vague de fond dans toute l'Afrique. Une vague de fond pour soutenir les colonels de Bamako, une vague de fond contre les présidents pro-occidentaux, une vague de fond au milieu du panafricain pour soutenir la Russie, l'Algérie et le Mali. Cette vague de fond, c'est l'immense colère russe contre les présidents pro-occidentaux, a commencé par les trois principaux d'entre eux, Roch Marc Kaboré au Burkina Faso, Mohamed Bazoum au Niger, et Hassan Ouattara en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que vous pensez souvent, ces trois présidents ne sont pas du tout des présidents souverainistes. Mohamed Bazoum, c'est la prostituée des Américains. Il transformait son pays, le Niger, en une base assez logistique pour les Américains. C'est là qu'il est basé pour les Américains. Il y a des bases américaines, espagnoles et allemandes, et c'est là que les Américains veulent déplacer l'épicentre de la guerre du Sahel pour le compte des Occidentaux. Hassan Ouattara, oui, c'est un sous-préfet français, Roch Marc Kaboré également. Il y a une immense colère des populations à l'occasion d'une tentative de déplacer les troupes françaises de Barkhane depuis la route jusqu'au Burkina Faso. Là, les Panafricains se sont soulevés. Ils ont empêché le déplacement des troupes et ils ont mis en échec les Français. Le président, par exemple, le président d'hier, il a laissé les troupes françaises tirer à balle. Il a eu des morts. Il est vomi par sa population. Il a appelé sur tous les réseaux sociaux d'un panafricanisme pour que les jeunes contre le Burkina Bélirien prennent comme au Mali leur responsabilité, s'emparent du pouvoir et orientent leur pays vers la Russie, en sortant les Français et les Américains. Ce qu'il faut retenir, le tentative du lieutenant-colonel qui vient d'être arrêté, c'est la première qu'il a faite. C'était un homme qui avait des politiques, notamment dans les réseaux sociaux, avec des médias. Il a joué, mais il y aura d'autres tentatives. Vous devez savoir que les militaires qui voudront s'emparer du pouvoir, ils ont le soutien absolu de leur population. Exactement comme le colonel Simi Bulta a le soutien absolu de la population. Ajoutons que derrière ce soutien des populations, il y a le soutien diplomatique des Algériens, des Russes et Chinois. Il y a quelques jours d'ailleurs, Moscou et Pékin ont intervenu au Conseil de sécurité pour empêcher que des sanctions comme celle de la CEDEAO soient prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est éliminer l'époque où on pouvait assimiler tous les coups d'État à des coups d'État pro-occidentaux. Actuellement, il faut qu'ils profitent de l'opération. Il y a récemment un coup d'État pro-occidental organisé par les Français et les Américains surtout, en Guinée-Conakry qui a renversé Alpha Condé. Le lieutenant-colonel Dombouya est un ancien lieutenant français, c'est l'officier de l'Union avec l'Africom américain et l'armée guinéenne. Lui, évidemment, il a fait un front à coup d'État pro-occidental. Mais les colonels de Bamako, ils ont fait exactement comme les héros russes de Khartoum au Soudan. Ils ont fait des coups d'État pour éliminer les éléments occidentaux, pro-russes. Au Bamako, on a éliminé les éléments pro-français et à Khartoum, on a éliminé les éléments pro-américains de l'Atlantique Coutu avec le premier ministre pro-américain, membre lui-même de l'Atlantique Coutu avec un passeport américain, Abdallah Abdon. C'est cela qu'il faut retenir. Aujourd'hui, la géopolitique africaine, elle est complète. Il faut regarder dossier par dossier. Donc, il faut ajouter que votre pays, l'Iran, soutient dans Bamako et les colonels de Bamako, lors du dernier Mouloud, la fête musulmane, l'ambassadeur d'Iran à Bamako a rencontré des anciens combattants et il a assuré les colonels de Bamako du soutien humanitaire au Mali, du soutien sécuritaire et maintenant de la constitution de l'économie pour éviter les sanctions de la CEDEAO et des gouvernements occidentaux. C'est cela qu'il faut retenir, bien entendu. Le bloc d'Est est tout à fait totalement derrière Bamako et il souhaitait maintenant que l'entièreté de l'Afrique, du mouvement, et que donc le président Mohamed Bazoum, comme Alassane Ouattara ou Marc Aboré, soit renversé rapidement.
L'Afrique du Sud a lancé les trois premiers nanosatellites de la constellation de surveillance de son espace maritime. Afin de prendre une part plus importante sur le marché mondial des satellites qui connaît une croissance rapide, l'Afrique du Sud progresse dans le développement des infrastructures spatiales. Le pays a pour ambition de devenir un fournisseur de services, notamment pour les autres nations du continent. Le lancement des trois nanosatellites intervient 3 ans après le lancement de ZA-CUBE-2, présenté comme le nanosatellite sud-africain le plus avancé à ce jour. L'Afrique du Sud a effectué dans l'après-midi du jeudi 13 janvier le lancement de 3 nanosatellites. Ce sont les premiers équipements de la nouvelle constellation sud-africaine de satellites de surveillance du domaine maritime baptisé MDASAT. Le Congo annonce la création d'une école du pétrole à vocation sous-régionale. Bien que constituée de pays producteurs de pétrole, l'Afrique centrale connaît un déficit d'ingénieurs dans ce secteur. Cela pourrait bientôt se réduire grâce à une école spécialisée que le Congo envisage d'ouvrir. Le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, Bruno Itoua, a annoncé la création d'un institut africain du pétrole à Pointe-Noire. Dans une interview accordée aux médias La Tribune Afrique, le membre du gouvernement a indiqué « Nous travaillons sur des termes de référence, le processus de mise en œuvre. Nous allons d'abord faire du training en ligne, ensuite du training in situ. » L'école à vocation sous-régionale permettra de former les techniciens et ingénieurs afin de combler le besoin en main-d'œuvre dans l'Afrique centrale constituée de pays producteurs de pétrole. Les Kenyans commenceront à utiliser l'autoroute construite par la Chine en mars. Les Kenyans commenceront à utiliser l'autoroute de Nairobi construite par la Chine en mars 2022, 3 mois plus tôt que prévu, a déclaré vendredi un responsable kenyan. Kungu Dungu, directeur général de la Kenya National Highways Authority, a déclaré que les travaux de construction sur la route se trouvaient à un stade d'achèvement de 82%. La construction de l'autoroute de Nairobi continue de bien progresser avec un état d'achèvement de 82%. Le projet devrait être ouvert au public d'ici mars, a déclaré M. Dungu dans un communiqué. Les Kenyans attendent avec impatience l'achèvement de cette route de 27 km qui permettra de réduire le temps de trajet du sud à l'ouest de Nairobi à environ 20 minutes contre 2 heures actuellement aux heures de pointe. Le ministre guinéen de l'élevage s'inspire du modèle ivoirien. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a eu vendredi 14 janvier 2022 une séance de travail avec son homologue guinéen de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, des œufs et forêts, Mamadou Naganel Bari, venu s'inspirer des bonnes pratiques agricoles de la Côte d'Ivoire. À l'issue de la réunion, M. Bari a justifié son séjour par le fait que la Côte d'Ivoire inspire par son niveau de progrès dans tous les segments du domaine de l'agriculture au sens large. Ainsi, avec son homologue en charge des ressources animales et halieutiques, les échanges ont porté sur les enjeux actuels de la sécurité alimentaire ainsi que les technologies mises en place par la Côte d'Ivoire pour adresser cette question.